Comment ça va cet après-midi?
Bien,
plutôt bien. Et j'espère encore avec assez de force pour écouter notre Dieu, écouter sa parole. On a chanté que lui seul est digne de louange, d'honneur, de gloire pour l'éternité. Lui seul est digne aussi d'être écouté, comme on n'écouterait personne d'autre. Ce matin, nous avons vu que Paul opposait deux groupes d'hommes. Et ceux qui ont été dépeints en dernier, c'était les contradicteurs, les séducteurs, les discoureurs, trompeurs. Mais Tite, quant à lui, doit rester fidèle. Il doit rester fidèle à la saine doctrine. Et c'est ce que nous voyons au début du chapitre 2. Et comme Paul le dira plus tard, eh bien, Tite ne doit pas perdre de temps dans des discussions qui sont totalement futiles. Il a autre chose à enseigner à l'Église. L'Église a besoin d'être encouragée, et chacun en particulier, jeunes et moins jeunes, mais toujours selon la saine doctrine. Tout comme les anciens, Paul va mettre dans ses recommandations, dans ses encouragements, l'accent sur le caractère et aussi sur les attitudes que tout croyant finalement doit avoir dans sa vie. Et par-dessus tout, ce texte nous permet de nous examiner sur ce qui nous motive à nous comporter de façon chrétienne. Qu'est-ce qui fait que tu veuilles bien te comporter de manière chrétienne? Est-ce que c'est lié à ton éducation? Parce que finalement, on te l'a toujours enseigné à la maison ou à l'église, et donc tu te comportes de cette manière-là parce que tu as appris que c'était comme ça qu'il fallait se comporter. Ou bien, est-ce que c'est consciemment ou inconsciemment une manière de chercher la faveur de Dieu? Oui, si je me comporte de cette manière-là, je sais que Dieu m'approuvera. Est-ce que c'est une manière aussi, peut-être, en se comportant de manière chrétienne, de vouloir éviter d'avoir des problèmes avec Dieu? Qu'est-ce qui est le moteur dans ta vie en tant que chrétien? Qu'est-ce qui motive ta démarche, tes décisions à vouloir te comporter comme Dieu demande de le faire? Et Paul veut que Tite puisse dire à l'Église, à chaque catégorie de personnes, des paroles bien particulières. Et c'est ce que nous allons voir dans un premier temps, des versets 1 à 10. Je lis le verset 1. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Et déjà, je peux m'arrêter là. Dis ce qui correspond à la saine doctrine. Ce premier verset nous invite déjà à comprendre qu'il faut lier la saine doctrine à un comportement sain. Et c'est vrai que ce matin, nous parlions aussi de saine doctrine, mais nous n'avions pas encore défini ce que nous comprenons par cette expression. Et pour répondre, on peut regarder par exemple 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, versets 3 à 4. Nous lisons ceci: si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la saine doctrine renvoie à l'enseignement du Seigneur lui-même. Ce que nous entendons par saine doctrine, cela renvoie à l'enseignement, aux paroles du Seigneur lui-même. C'est l'enseignement qui est conforme à l'Évangile. C'est l'enseignement qui est conforme à la vérité qui nous vient de Dieu. Voilà ce que nous devons comprendre par saine doctrine. Et Paul dit à Tite, quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. N'enseigne pas autre chose que cela. Qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun selon son âge? Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des paroles différentes pour chaque âge et aussi pour homme et pour femme. Le texte laisse supposer que dans les églises de Crète, en tout cas, les personnes âgées avaient plus de maturité spirituelle. Alors je sais que dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas. Dans la réalité, nous pouvons penser tout simplement à telle sœur qui s'est convertie peut-être à 80 ans. Oui, ça existe. Ou bien un tel frère dans un âge avancé qui s'est fait baptiser. Vous en connaissez peut-être. Mais Paul n'envisage pas ici ces cas en particulier. Il suppose, il nous laisse supposer en tout cas, que les personnes âgées ont plus d'expérience, plus de maturité spirituelle. Et c'est pour ça qu'au verset 2, il dit ceci, « Dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. » Avant la liste des adjectifs qui qualifient les frères plus âgés, nous dirions qu'ils doivent être sans reproche, si on devait le résumer, comme les anciens en fait. Le Seigneur attend des frères plus âgés qu'ils soient réfléchis, par exemple. On retrouve cet adjectif au verset 2, qu'ils soient réfléchis. Et si vous vous souvenez, c'est aussi cet adjectif que nous trouvions pour les anciens, que les anciens soient des personnes réfléchies. Est-ce qu'on pourrait compter sur les frères plus âgés comme des croyants solides dans leur foi, en bonne santé spirituelle ? Même s'ils ne devaient pas l'être physiquement. Peut-on espérer voir dans nos églises, en nos seigneurs, des croyants qui soient persévérants, qui n'ont pas lâché le Seigneur avec les années, et qui comptent continuer à marcher avec le Seigneur? Est-ce que nous trouvons de tels exemples? Et nous pourrions leur demander, juste comme ça, peut-être en un à un, le secret de leur longévité spirituelle. Comment ça se fait qu'avec les années, tu n'aies pas lâché la main du Seigneur? Si vous avez l'occasion d'avoir ce genre de conversation, profitez-en. Demandez à nos aînés, comment cela fait, se fait-il qu'avec toutes ces années, peut-être 20, 30, 40 ans, tu marches toujours avec le Seigneur? Et si je prends un exemple positif, eh bien, j'ai eu l'occasion par exemple d'entendre parler de pasteurs âgés qui ont bien terminé leur course. Et vous le savez peut-être, ce n'est pas toujours le cas. Ou j'ai entendu parler de tel frère qui a rendu son dernier souffle alors qu'il était en train de préparer une étude biblique. Des frères qui ont tenu jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle. Et Paul demande à Tite de pouvoir encourager ses frères plus âgés, ses vieillards, à être justement solides dans la foi, à être persévérants. Nous lisons verset 3, de même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Pour les femmes âgées, des qualités aussi sont attendues. Alors bien sûr, si on pense à la médisance, qui n'est pas en fait seulement un problème féminin, tout de même ici, Paul attire l'attention sur le fait qu'elles doivent être particulièrement vigilante par rapport à ce travers qui peut toucher les femmes, tout comme les hommes. Attention à la médisance. Et peut-être, arrivé à un certain âge, c'est plus facile d'être médisante. Vigilance aussi par rapport à la boisson. Et vous vous souvenez que lorsque nous disions cela pour les anciens, c'était en lien avec la maîtrise de soi. Ne pas s'adonner à la boisson pour ne pas perdre tout contrôle. Eh bien, cela est demandé aussi aux sœurs plus âgées. Alors qu'est-ce qui doit caractériser dans ce cas-là le ministère de ces sœurs? Eh bien ici, cela nous est dit, c'est le fait d'enseigner ce qui est bien. Ce qui correspond en fait à l'enseignement saint. De l'enseigner notamment aux sœurs qui sont plus jeunes. Et c'est ce que nous voyons au verset 4 et 5. Ainsi elles apprendront, les femmes âgées, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchis et purs, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Les sœurs plus âgées peuvent être d'excellentes conseillères pour celles qui ont seulement peut-être quelques années de mariage ou quelques années de parentalité. Mes chères sœurs, vous trouvez ici dans cette liste des versets 4 et 5 une liste de thèmes à traiter peut-être dans le cadre du groupe Fresh, je ne sais pas. Que les aînés prennent la parole pour encourager les autres sœurs à être des servantes de Dieu, réfléchies, pleines de bonté, soumises à leur mari. En tout cas pour celles qui sont mariées. Et vous notez bien le but de tout cela, à la fin du verset 5, « afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée ». Oui, une femme qui a tendance à négliger son foyer n'est pas en train de suivre la saine doctrine. Et elle risque en fait de ternir son témoignage chrétien. Qu'est-ce qu'on entend par le fait de négliger son foyer ? Eh bien, en fait, lorsqu'on lit par exemple dans 1 Timothée chapitre 5, concernant les jeunes veuves, Paul écrit ceci, versets 13 à 14. 1 Timothée 5, versets 13 à 14. De plus, étant désœuvrées, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison. Et non contentes d'être désœuvrées, elles se montrent encore bavardes et indiscrètes en parlant de ce qu'il ne faut pas. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. La responsabilité incombe, notamment à ces jeunes veuves dans ce texte, de ne pas attiser les critiques par un comportement inadéquat, par un comportement qui ne fait pas honneur à la saine doctrine. Et vous imaginez que si les sœurs aînées jouaient ce rôle pour encourager les autres sœurs, pour les enseigner, ce serait un tel bienfait, un bienfait incroyable pour le témoignage que nous rendons dans nos foyers. Et vous remarquez que Paul ne dit pas à Tite de se charger de cet enseignement auprès des jeunes femmes. Et je pense que c'est plus sage, effectivement. Ce n'est pas à Tite d'enseigner aux jeunes femmes qu'elles doivent bien tenir leur maison. Non, c'est aux sœurs plus âgées de le faire dans l'Église. Verset 6, encourage. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, de nouveau cet adjectif, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres, dont ton enseignement fait preuve de pureté, de sérieux, que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. C'est au tour des jeunes gens de recevoir des recommandations, des encouragements, et en particulier, encore une fois, cet adjectif d'être réfléchi, de faire preuve de bon sens, de ne pas prendre des décisions insensées ou des décisions hâtives, mais de garder en fait une maîtrise de soi, d'être réfléchi. J'aimerais dire un mot aux frères qui sont dans cette salle. Est-ce que vous vous qualifiez comme une personne réfléchie, sensée? Ou est-ce que vous avez tendance à prendre des décisions qui sont en réalité insensées, excessives, hâtives peut-être? Oui, certains d'entre nous, peut-être, on a ce caractère à foncer rapidement, à ne pas penser forcément aux conséquences. Sommes-nous réfléchis? Et pourtant, vous voyez ce qui est recommandé. Dans quel sens il faut encourager les frères? Soyez réfléchis. Et Paul souligne notamment le fait que l'importance pour Tite d'être un modèle par ses œuvres bonnes. Tite doit encourager ses frères en étant lui-même celui qui applique ce qu'il est en train d'enseigner. D'appliquer en fait ce que Dieu demande d'un jeune homme. De pouvoir accomplir de bonnes œuvres. Et là aussi, le comportement de Tite, son enseignement, sont cruciaux pour le témoignage de l'Évangile. Et si le groupe épique devait reprendre prochainement, je ne sais pas quand, méditons sur ce que Dieu enseigne à propos des hommes. Il y a beaucoup à dire. Et en particulier sur le fait de se poser cette question, ce que signifie d'accomplir de bonnes œuvres lorsqu'on est un homme. Et enfin, les versets 9 et 10, pour terminer cette section d'encouragement, encouragent les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours digne de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Et nous terminons avec ce que Tite doit dire aux esclaves. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Nous savons par d'autres textes que Paul recommande toujours la soumission au maître. Et finalement, c'est aussi un comportement irréprochable qui est demandé à ces esclaves, à ceux qui sont au service des autres. Et à bien des égards, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant, c'est de cette manière que nous pouvons aussi honorer le Seigneur en tant qu'employé. En étant exemplaire quant à l'honnêteté dont on fait preuve, quant à la fiabilité dont on fait preuve. Et ce comportement, assurément, est aussi lié à la saine doctrine de Dieu, qui est notre Sauveur. En fait, ce qui est très important pour Paul, c'est que le comportement des chrétiens fasse honneur à la parole de Dieu. Crédibilise l'évangile que nous annonçons. Nous annonçons une bonne nouvelle, mais il faut que derrière, notre comportement puisse suivre. Notre manière de vivre, notre attitude, notre cœur. Nous devrions toujours justifier auprès de ceux qui nous demandent que notre bon comportement, l'exemple dont nous pouvons faire preuve dans notre foyer ou dans nos études ou à notre travail, que ce comportement-là est toujours lié à la parole de Dieu, est toujours lié à la saine doctrine, qui nous conduit justement à adopter une saine manière de vivre selon Dieu. Oui, à ceux qui nous demanderaient comment cela se fait-il que nous nous comportions de telle ou telle manière, nous devrions toujours le justifier en disant que c'est la parole de Dieu qui nous dit, qui m'enseigne à vivre de cette manière-là. Je le fais selon la saine doctrine. Autrement dit, notre bon comportement, les qualités que nous cherchons à cultiver dans notre vie chrétienne devraient seulement être la mise en pratique de l'enseignement que nous trouvons dans la parole de Dieu. Comment cela se fait-il que telle sœur ne soit pas médisante là où d'autres femmes se livrent si facilement à ce péché? La réponse, la saine doctrine, l'enseignement de Christ. Comment cela se fait-il que telle sœur aime d'une manière si exemplaire son mari et ses enfants? La réponse, la saine doctrine. Comment se fait-il que le comportement de ce jeune frère aille toujours dans le sens des bonnes œuvres? La réponse, la saine doctrine. Comment se fait-il que tel frère ou telle sœur travaille avec honnêteté là où d'autres se laissent aller ou manquent même de respect à l'employeur? La réponse, la saine doctrine. Je crois que vous avez compris la correspondance évidente entre notre éthique, notre manière de vivre et la saine doctrine. Et si quelque chose doit dicter notre conduite, c'est l'enseignement vrai et sûr. C'est-à-dire cette doctrine que Paul va rappeler en fait dans les derniers versets du chapitre 2. Et je vous propose de voir cela ensemble dans un deuxième temps, où la grâce est comme comparée à une école pour tous. Et je lis les versets 11 à 15. « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. » Verset 15, « Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Les recommandations que nous avons vues au verset 1 à 10, les encouragements que nous avons vu en détail, trouvent leur motivation dans le fait que Dieu a révélé sa grâce. Vous voyez comment commence le verset 11. En effet. Vous devez vous comporter ainsi. En effet. Dieu a montré sa grâce. Ces versets 11 à 14 que je viens de dire sont en fait la partie doctrinale qui va justifier pourquoi on se comporte de cette manière-là dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas lié à l'éducation que nous avons reçue. L'éducation de bonnes mœurs, par exemple. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous éduque. Est-ce que vous voyez l'articulation? Que finalement, tout ce qui a été dit aux vieillards, aux femmes âgées, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, aux esclaves, tout cela est lié à cette partie-là. Parce que Dieu a manifesté sa grâce. Vous voulez un aperçu de la saine doctrine? Elle est là. Dans les versets 11 à 14. Et qu'est-ce que Paul rappelle à Tite? Et par la même occasion, eh bien, nous profitons de cela pour pouvoir nous rappeler encore ces vérités. Et vraiment, mon souhait, c'est que au moment où nous en parlons, alors que ces choses, nous les connaissons vraiment, cela puisse vraiment encore faire écho en nous. Puisse enfin nous permettre de contempler simplement combien Dieu est bon, quelle grâce il a manifestée envers nous. D'abord que la grâce de Dieu, verset 11, est une source de salut pour tous les hommes. C'est bien parce que Dieu l'a décidé qu'il nous sauve. Il en a pris la décision. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons nous sauver par nous-mêmes. Mais Dieu a décidé. C'est une faveur qui est imméritée, nous le savons, et qui trouve son expression, sa réalisation dans la venue de Jésus. Comment Dieu nous a montré qu'il nous a fait grâce? Il a envoyé son Fils. Jésus est venu, mais il n'est pas seulement venu, il n'a pas simplement vécu, mais il a donné aussi sa vie. Nous avons chanté tout à l'heure. Il a donné sa vie à la croix et il est revenu d'entre les morts. Et tous ces événements historiques que nous connaissons et que nous rappelons dimanche après dimanche, chaque semaine, et que chaque jour nous devrions aussi nous rappeler, ces événements historiques, par ces événements-là, le salut a été accompli pour tous les hommes. Tout homme qui croit est donc sauvé par grâce. Il n'y a pas d'exception à cela. Aucun homme ne peut dire « En réalité, je le méritais un petit peu. » En réalité, j'étais pas trop mal et donc Dieu est venu me chercher. Aucun homme, aucune femme ne peut dire cela. Tout homme qui croit, toute femme qui croit est sauvée par grâce. Se peut-il que parfois nous puissions quand même penser que oui, effectivement, Dieu a bien fait de nous choisir parce que nous ne sommes pas si mal que ça. Avons-nous oublié la grâce de Dieu? Avons-nous oublié que si Dieu a décidé de nous sauver, c'est simplement une faveur imméritée? Ou est-ce que nous trouvons des raisons dans notre vie actuelle pour dire « En fait, Dieu a bien fait de me choisir. » Et auquel cas, on s'éloigne de l'Évangile. Et vous remarquez dans la manière dont ça nous est dit, au verset 12, que la grâce nous enseigne. La grâce nous éduque, comme on éduque un enfant. La grâce de Dieu est comme une école pour tous les chrétiens. Et voici les leçons que nous y apprenons. Premièrement, à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, verset 12. C'est ce que nous appelons la conversion. Se détourner de notre vie d'avant, une vie qui ne tenait pas compte de Dieu, pour nous tourner vers Dieu. Tourner le dos à ce monde qui était tout pour moi. Ça, c'est la conversion. Pour se tourner vers Dieu. Afin de suivre celui qui m'a témoigné tant de grâce et tant de bonté. Et je sais que nombreux d'entre nous, on a fait ce choix de tourner le dos à une vie impie qui ne tenait pas compte de Dieu. La grâce nous enseigne, nous éduque à cela, à faire un tel choix. D'une manière positive, on pourrait dire aussi au verset 12 que la grâce nous enseigne à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu, alors que je la reçois, me conduit à vivre une vie différente de celle de ce monde. Repensez à toutes ces paroles que nous avons vues tout à l'heure, adressées à chaque catégorie de personnes, des personnes qui doivent être respectables, réfléchies, qui doivent rendre un bon témoignage du fait que cela se passe bien dans leur foyer ou au travail. Eh bien, tout cela, c'est parce que la grâce de Dieu m'enseigne à me conduire de cette manière-là. La grâce de Dieu me conduit à être réfléchi, à suivre la sagesse de Dieu plutôt que ma propre sagesse ou ma propre intelligence. Mener une vie selon la sagesse dans le temps présent, eh bien, cela indique que le croyant tient désormais compte des normes de Dieu. Il tient compte maintenant de ce que Dieu dit et il réfléchit aux conséquences de ses actes. C'est pourquoi cette vie peut être à la fois juste et pleine de respect pour Dieu. Dire que la grâce nous éduque implique donc que c'est une œuvre progressive, comme lorsqu'on éduque des enfants. C'est sur la durée, c'est pas du jour au lendemain que votre enfant devient ce que vous voudriez qu'il soit. La grâce nous enseigne. Et cela implique bien une œuvre qui est progressive, ce qu'on appelle en fait la sanctification. Une œuvre en fait qui dure toute la vie du croyant sur terre, jusqu'au retour de Christ, qui mettra un terme au temps présent, au siècle présent. Oui, il est bien question de cela ici, au verset 13, le retour de Christ. La perspective que un jour nous serons avec notre Sauveur. Voilà ce qui fait que notre attente est une espérance bienheureuse. Parce que nous avons cette perspective-là devant nous. Dans le passé, Dieu nous a témoigné sa grâce. Dans le futur, Dieu nous témoigne sa grâce en nous faisant attendre l'événement le plus important que nous ayons à attendre dans notre vie, à savoir le retour de Christ. Et vous vous souvenez que ici, il est question d'espérance, mais qu'au chapitre 1, il était aussi question d'espérance, l'espérance de la vie éternelle. Christ est l'être absent dont nous attendons le retour. Est-ce qu'il y a des personnes absentes dont vous avez pu attendre le retour? Est-ce que vous savez quel sentiment cela fait? Christ est l'être absent dont nous attendons le retour. En chair et en os, oui, Christ est présent en nous, Christ est là, on le sait. Mais nous attendons son retour en personne. C'est une stimulation supplémentaire pour mener une vie juste dans le présent. Une vie qui soit cohérente par rapport au message de la grâce. Et le jour où Christ reviendra dans toute sa gloire, ce jour, ce sera aussi un jour où effectivement, ce sera une preuve visible pour les non-croyants. Une preuve qu'ils auraient dû croire en lui. Parce que là, ils le verront. Et ce jour-là, le témoignage sera à son comble. Puisque là, ils pourront voir la vérité en face. Mais ce sera trop tard. Et donc, quand on pense à notre manière de vivre aujourd'hui, mener une vie juste et pieuse est alors un témoignage plus qu'important dans le temps présent. Nous ne souhaitons pas que celles et ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas le Seigneur puissent arriver à ce jour où ils voient le Seigneur face à face et où c'est trop tard. Mais en quoi notre vie, maintenant, dans le temps présent, peut être un témoignage pour leur permettre de se tourner vers le Seigneur? donnant sa vie pour nous, Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. Voilà une autre vérité qui nous est rappelée ici. Il nous a libérés de notre rébellion contre Dieu. Oui, nous étions tous rebelles à Dieu. Mais il nous a libérés de cela, de telle sorte que nous nous sommes mis à aimer Dieu. Incroyable. Oui, en donnant sa vie pour nous, Christ nous a libérés de cela. Il nous a purifiés, il nous a permis d'avoir cet accès à Dieu, de vivre une communion qui est précieuse avec notre Créateur, celui que nous appelons Père maintenant. Et Christ a fait de nous un peuple. C'est ce que nous voyons au verset 14. Christ a fait de nous un peuple qui est en fait le trésor même de Dieu, un peuple qui appartient à Dieu. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, notamment lorsque je donnais le cours sur la loi de Moïse, quand nous appartenons à Dieu, nous ne pouvons pas vivre comme bon nous semble. Si nous appartenons à Dieu, nous ne pouvons pas vivre comme bon nous semble. Parce que désormais, nous ne sommes plus à nous-mêmes, mais à lui. Il nous a rachetés. Nous sommes à lui, et non plus à nous-mêmes. Nous sommes à lui, et donc tout logiquement, nous voulons vivre désormais comme Dieu le veut, puisque nous lui appartenons. C'est lui qui dicte, finalement, notre vie. Et cette consécration, vous le voyez ici aussi au verset 14, se manifeste par le zèle pour les bonnes œuvres. Voilà, nous y sommes, nous arrivons à ce qui était dans l'intitulé du thème. Sommes-nous un peuple zélé ? Nous y sommes. La question se pose. Si Christ, en donnant sa vie, a fait en sorte de racheter un peuple qui appartienne à Dieu et qui soit zélé pour les bonnes œuvres, sommes-nous dans ce chemin-là ? Avons-nous conscience que, en fait, voilà pourquoi Christ a donné sa vie ? Pour faire de nous un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Et tout à l'heure, Oscar a donné différents synonymes. Un peuple qui ait de l'ardeur, de la dévotion, de la ferveur, qui soit passionné pour de bonnes œuvres. Et ce serait vraiment déplorable que les chrétiens, finalement, soient plus connus parce qu'ils sont pécheurs. Alors que ici, très précisément, Christ est mort pour que le peuple de Dieu, les chrétiens, puissent montrer qu'ils sont zélés pour de bonnes œuvres. Comprenons donc que nous avons été sauvés pour accomplir de belles œuvres. Et si notre vie ne s'aligne pas juste sur cette réalité, sur cette vérité, c'est que nous n'avons pas compris l'Évangile. Et si nous n'avons pas compris l'Évangile, nous ne sommes pas sauvés. Comprenons donc que nous avons été sauvés pour accomplir de belles œuvres. Sans exception. Petits et grands. Hommes ou femmes. Nous constituons un peuple dont Dieu réclame le zèle pour les bonnes œuvres. C'est le meilleur témoignage que nous pouvons lui rendre sur cette terre. C'est lorsque son peuple fait de bonnes œuvres sur terre. Et Jean Chrysostome, et je terminerai sur cette citation, un des pères de l'Église disait « Dieu ne nous a pas seulement délivrés du péché, il nous a rendus beaux, aimables et séduisants. » Séduisants par les bonnes œuvres, qui donnent envie de découvrir l'Évangile, qui donnent envie de connaître ce Dieu qui en fait nous a fait grâce et que cette grâce nous a enseigné à être zélés pour de belles œuvres. Ce que Paul rappelle ici à Tite, et nous profitons pleinement de ce rappel qui nous est fait, c'est que la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ nous éduque pour changer, nous éduque pour vivre une vie différente, différentes des modèles de ce monde pour adopter le modèle de Dieu, pour faire honneur à Dieu à qui nous appartenons. Et nous devons mener une telle vie dans le temps présent avec persévérance, bien sûr toujours avec l'aide de Dieu, mais avec persévérance, jusqu'à ce que notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ revienne dans sa gloire.